À 6h49, le Social Lab. Salutations Valère Coréard.
Salut Eric, salut Karine.
Salut Valère.
On va parler des à côté de la guerre en Ukraine, car au-delà des peuples, cette guerre n'épargne pas non plus la planète.
Ouais, c'est un sujet qui commence gentiment et bien sûr tout doucement à s'imposer. Il passe évidemment après les drames humains, hein, mais vous le savez, derrière toute atteinte majeure à l'équilibre environnemental, il y a de nouveaux drames. Et ce qui est certain, c'est que l'impact de ce conflit sur la nature sera durable et profond. Avec cette guerre en Ukraine, il y a deux grandes de conséquences écologiques. D'un côté, tout ce qui concerne les eaux, le sol, l'air sur place, bien sûr, et aux alentours. Et puis, le sujet absolument central de l'énergie.
Oui, vous avez raison. Sur place, lorsqu'on voit avec sidération l'état de certaines villes après les attaques russes, on imagine évidemment que la nature n'a pas été épargnée.
Évidemment, et l'Ukraine a de nombreuses industries, notamment à l'est du pays, ce qui ne fait qu'augmenter les risques de pollution. Un programme international qui référence les sites toxiques dans le monde en a identifié 75 problématiques sur place. On imagine aussi que les bombardements d'installations navales vont avoir des conséquences sur la pollution des mers. Toute cette artillerie et ces destructions sur les terres ukrainiennes vont polluer durablement les sols, l'air sans aucun doute, et bien sûr, la biodiversité ne sera pas en reste. Et puis, il y a le risque nucléaire. Si pour le moment, il semble qu'on ait évité le pire, aucun expert n'oublie que Tchernobyl, c'est bien en Ukraine.
Et à tel point que certains observateurs voient dans cette crise l'opportunité de ne plus dépendre du gaz russe, par exemple en accélérant la transition énergétique.
Oui, il faut dire qu'on sait maintenant que notre consommation d'énergie compte beaucoup sur le plan climatique. Donc finalement, ça permettrait de faire d'une pierre deux coups. Le dernier volet du 6e rapport du GIEC publié ce lundi l'a d'ailleurs rappelé. La production d'énergie pèse un tiers des émissions mondiales seulement. Voilà, entre crise inflationniste, enjeux majeurs autour du gaz, on regarde où ? Du côté du pétrole, du charbon, aux antipodes, clairement, de la transition énergétique. Il y a pourtant plusieurs options sur la table. Mettre le cap à fond sur les renouvelables, jouer la carte de la sobriété énergétique ou revenir en arrière et chercher la solution du côté des fossiles. Pour Jean-Baptiste Fressoz, historien au CNRS, il ne faut pas voir les choses en blanc ou noir. On est plutôt entre gris clair et gris foncé.
En fait, on va faire les trois. C'est-à-dire que les choses ne sont pas exclusives les unes des autres. On va à la fois développer les renouvelables, parce que dans certains domaines, elles sont compétitives. Et on va aussi sécuriser des approvisionnements en gaz. Par exemple, on va s'équiper davantage de systèmes qui servent à utiliser du LNG, du gaz liquéfié. Mais ça, c'est des investissements très, très lourds qui sont appelés à durer très longtemps. Et donc, ça veut dire qu'on va se retrouver dépendant du gaz, pas simplement russe, mais du monde entier, pour des décennies et des décennies. Donc, effectivement, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'un renchérissement du prix d'énergie fossile va nécessairement conduire à un basculement vers les renouvelables. Les sources d'énergie, elles se posent pas les unes les autres. En fait, le gaz, ça sert pas exactement à la même chose que les panneaux solaires ou que l'éolien. Donc, en fait, on va développer et on va aussi faire de la sobriété sur certaines choses.
Et si on regarde un peu dans le rétroviseur, alors des crises énergétiques, comment cela s'était-il passé, par exemple, pour les chocs pétroliers des années 70, vers le meilleur ou le pire? Jean-Baptiste Fressoz parle, lui, de contre-choc.
Là, on vit un choc sur les prix. Et dans les 70, pareil, il y a eu un choc sur les prix. Et ça a conduit plutôt à, en fait, un contre-choc, donc une expansion et un renouvellement des fossiles, avec des nouveaux gisements pétroliers plus difficiles à atteindre, mais qu'on arrive à atteindre avec des capitaux, avec l'extraction du gaz qui se modernise complètement dans les années 80. Ça va donner naissance au gaz de schiste. Et puis ensuite, surtout, le retour du charbon, qui est en fait la grande énergie de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle.
Allez, comparaison n'est pas raison, mais enfin, pour le moment, les signaux faibles semblent montrer que l'histoire pourrait bien se répéter. Si l'interview vous intéresse de Jean-Baptiste Fressoz, vous pouvez la voir en entier. On vient de la publier, c'est sur l'infodurable.fr. Je dis ça, je dis rien.
Si, on a bien compris. Valère Coréard, votre chronique. Le Social Lab, c'est évidemment sur franceinter.fr.